Alors, le sujet de cette session, juste en introduction, c'est la partie vieillissement. Là, je vais repasser, enfin, je vais vous parler un peu de vieillissement, mais pas que, parce que les enquêtes d'autonomie, vous allez voir, c'est vraiment sur tout le champ de l'absence ou la perte d'autonomie. Et du coup, on a vraiment travaillé notre enquête pour qu'elle soit sur le champ du handicap, puis de la perte d'autonomie. Cette fois-ci, j'ai que 4 parties. Je vais vous faire une vue d'ensemble, présenter d'abord une vue d'ensemble du dispositif pour que vous compreniez un peu pourquoi j'appelle ça un dispositif d'enquête et pas juste des enquêtes. J'ai prévu de vous faire quelques morceaux choisis sur la conception du dispositif. Et puis après, je vais vous parler un peu plus rapidement des appariements et de la mise à disposition des données. Alors, la vue d'ensemble. La genèse, donc vous avez vu, ces enquêtes, elles sont les héritières des enquêtes précédentes. La dernière, elle a eu lieu en 2008-2009, on est en 2023. C'est des enquêtes qui sont très appréciées. Je sais que les chercheurs étaient ravis quand on leur a dit « on repart pour un tour ». Et en 2017, depuis 2017, on a une très très forte demande de renouvellement par de nombreux acteurs, y compris de la société civile, donc le Conseil national de l'information statistique, le monde associatif, l'ONU, le défenseur des droits. Donc, vraiment grosse demande. Et donc on a lancé, mais le problème de ces enquêtes c'est qu'elles coûtent très très cher, donc on ne peut pas les faire tous les trois matins. Et donc la statistique publique a réussi à... obtenir les budgets pour lancer le projet en septembre 2019. Les objectifs de ces enquêtes, c'est de mesurer les données fondamentales sur les personnes handicapées ou dépendantes, de comparer leurs conditions de vie au reste de la population, et aussi de mesurer les données fondamentales sur les aidants de ces personnes. En termes de champ, on va vouloir interroger des personnes handicapées, des personnes dépendantes, des personnes qui ont des restrictions d'activité ou pas, puisqu'on va vouloir comparer au reste de la population. On va vouloir interroger sur la situation de personnes, quel que soit leur âge. Donc, dans l'enquête, on va avoir des enfants qui ont un an et des personnes âgées qui en ont 102, par exemple. On va aussi vouloir aller interviewer les gens, quel que soit leur lieu de vie, qu'elles vivent à domicile. Donc ça, c'est ce que la stat publique sait faire par cœur. Mais si on ne va pas dans les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées, on a perdu. Donc il faut aussi qu'on aille dans les établissements qui hébergent ces populations spécifiques. En termes de champ géographique, on a un dispositif en plusieurs représentativités. La première enquête, dont je vais vous parler juste après, l'enquête vie quotidienne et santé, elle est représentative en France entière à domicile, avec des résultats disponibles par département. Et au niveau au moins champ métropolitain pour les autres enquêtes, avec des résultats qui seront représentatifs sur l'ensemble de la métropole. On ne pourra pas aller à un niveau plus fin. Donc vraiment l'enjeu, c'est de couvrir toute la population. Comment on s'est organisé? Donc là, c'est un ensemble, on s'est organisé un ensemble de 7 enquêtes qui sont réalisées sur 5 ans. On a commencé par l'enquête et oui, comme on n'est pas une équipe très nombreuse, on l'a fait petit à petit. Donc on a commencé par faire l'enquête à domicile. Je vous disais tout à l'heure, on veut vraiment couvrir à la fois des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes, mais aussi des personnes qui vont bien. Et pour pouvoir faire des comparaisons, on a besoin d'avoir suffisamment de personnes. C'est pour pouvoir faire de pouvoir produire des études assez fines sur les personnes handicapées et âgées dépendantes, on a besoin d'avoir suffisamment de personnes handicapées ou âgées dépendantes dans notre échantillon. En gros, à la fin, on voulait à peu près la moitié de personnes handicapées ou âgées dépendantes et la moitié de personnes qui allaient bien. Mais on n'a pas de base, donc pour faire des enquêtes de la statistique publique, on prend toujours une base de sondage dans laquelle on va tirer un échantillon représentatif de la population. Et là, on est toujours un peu embêté parce qu'on n'a pas de base de sondage qui nous dit telle personne est handicapée, telle personne est âgée vieillissante, telle personne va bien. Qu'à cela ne tienne, on s'est créé cette base de sondage. Donc on a commencé par faire une première enquête auprès d'un très très grand échantillon. On a interrogé 330 000 personnes en 2021 au cours de l'enquête vie quotidienne et santé. Donc c'est un questionnaire qui est très court. Pour chaque personne qui a répondu, elle a répondu à 25 questions, mais par contre, massif. Une fois qu'on a eu ces réponses, C'est là qu'on s'est construit la base de sondage. Les personnes ont répondu à des questions donc très rapides sur est-ce que vous avez des problèmes pour voir, même si vous avez même avec vos lunettes, pour entendre, pour marcher, pour sortir de chez vous. Est-ce que vous avez une reconnaissance de handicap? Est-ce que vous pensez que vous avez un handicap? Est-ce que vous avez une reconnaissance d'invalidité? Est-ce que vous avez besoin d'aide technique? Et en fonction de leurs réponses, on leur a attribué un score qui nous permettait d'évaluer si les personnes avaient un risque de perte d'autonomie ou pas. Et plus les personnes nous répondaient qu'elles avaient des difficultés, plus leur score était élevé. À la fin, on a réparti ces répondants en 4 sous-groupes. Avec un groupe où on se dit, vu toutes les réponses, toutes les difficultés qu'ils nous déclarent, sûrement ils ont des problèmes d'autonomie, à un groupe où on se dit, normalement, vu les réponses qu'ils nous déclarent, ils sont autonomes, ou ce sont des enfants qui n'ont pas de problème. Ça a constitué notre base de sondage. Après, on a retiré un échantillon représentatif, beaucoup plus limité par rapport à 330 000 personnes, mais bon, on a quand même 23 000 personnes qui ont accepté de nous répondre, et on les a recontactés, et on est revenu les voir en 2022, au cours d'un entretien avec un enquêteur de l'INSEE, pour leur demander s'ils acceptaient de répondre à un questionnaire un peu plus long, en moyenne une heure, certains c'était 3 heures. Au cours de cette enquête, on a certaines personnes qui nous ont dit « bah moi je suis aidée dans la vie quotidienne parce que j'ai un problème de santé, j'ai un handicap, je suis âgée et puis j'y arrive plus ». Et donc on a récupéré les coordonnées de leurs aidants, alors quand c'était des proches aidants, de la famille, des amis, et on est allé les interroger sur leurs conditions de vie à eux. Ça s'est passé en 2022. Le terrain s'est arrêté il y a un an. Les résultats de l'enquête vie quotidienne et santé sont disponibles, diffusés sur projet d'eau, sur date adresse, etc. Les résultats de l'enquête individu et aidant sont en cours de retravail. Puisque derrière, il faut qu'on redresse de la non-réponse avant de pouvoir proposer des statistiques de qualité. Deuxième étape de notre dispositif, l'enquête en établissement. On va dans 3 grands types d'établissements. Il y a les établissements d'hébergement pour personnes handicapées, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et puis on va aussi dans les établissements de santé mentale, parce qu'on s'est rendu compte en 2008 que les personnes qui ont des troubles psychiques et qui font souvent le yo-yo entre domicile et hôpital, on a vu des problèmes pour les... Normalement, en fait, elles vivent principalement à domicile, et donc on voulait les interroger dans le volet individu, mais comme elles sont souvent à l'hôpital, et puis quand elles sont chez elles, parfois elles ne vont pas très bien, elles n'ont pas trop répondu, donc là on essaie d'aller vraiment les voir quand elles sont prises en charge par des soignants. De la même façon, donc là la collecte est en cours, peut-être qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont en train d'être interrogés, jusqu'en février prochain. Et de la même façon que pour l'enquête à domicile, si les personnes ont des aidants proches, donc pas les professionnels qui s'occupent d'eux tous les jours, on va aller les interviewer. On espère avoir 7500 répondants et sûrement à peu près 6000 personnes aidantes. Ça, ces 5 enquêtes-là, c'est des enquêtes qui ont déjà été réalisées dans le passé pour nos enquêtes donc, de HID jusqu'à CARE. Et en 2024 et 2025, on va faire 2 volets un peu spécifiques. Où là, pour le premier volet, je quitte complètement le domaine de la vieillesse, puisqu'on va aller pour la première fois en 2024 dans les établissements d'hébergement de la protection de l'enfance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans ces établissements, les enfants qui sont hébergés dans ces établissements-là ont beaucoup plus souvent que dans le reste de la population, je crois que le reste de la population c'est 2% et là c'est 14%, une reconnaissance de handicap par les maisons départementales des personnes handicapées. Donc on s'est dit que si on n'y allait pas, on allait rater, on allait rester myope sur ces enfants, c'est vraiment dommage. Donc là, on a pour l'instant une enquête test qui est en cours et on va faire l'enquête à l'automne prochain auprès d'un millier d'enfants. Et puis en 2025, on va revenir dans les prisons. Je dis revenir parce que la toute première enquête HID, elle a eu lieu aussi dans les prisons en 2000 ans. Et à cette époque, à ce moment-là, on s'était rendu compte que les personnes détenues étaient beaucoup plus souvent en situation de handicap que dans le reste de la population. Et c'était en 2000. C'était avant qu'on prenne vraiment en compte le handicap psychique comme un handicap. Donc vous voyez, c'est un travail au long cours. On vous mettra à disposition, bien sûr, les données quand elles seront disponibles et on essaie de le faire le plus vite possible. Je vais passer maintenant à des morceaux choisis. Avant de pouvoir vraiment vous dire... La première question, ça a été de construire le questionnaire. Mais pour pouvoir construire le questionnaire, il fallait qu'on puisse définir le handicap. Alors, on a la loi de 2005, du 11 février 2005, qui dit, je vais vous le lire, « Constitue handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » Voilà, ça c'est notre définition du handicap, du coup c'est vraiment valable quel que soit l'âge. Et à partir de ça, il faut construire un questionnaire pour qu'on puisse définir le handicap selon cette loi, mais aussi qu'on puisse définir le handicap avec des sous-parties, par exemple. Donc l'enjeu, ça a été de pouvoir construire un questionnaire qui allait pouvoir vraiment nous permettre de travailler sur l'objet handicap de plusieurs façons différentes. Là, ce qu'on voit... c'est que il y a quand même trois aspects qui se détachent. L'aspect déficience avec l'altération substantielle, durable, définitive d'une ou plusieurs fonctions jusqu'à la fin de la phrase. Il y a l'aspect environnemental, c'est des limitations subies dans un environnement donné. C'est-à-dire qu'en soi, si une personne est aveugle mais que tout son environnement est parfaitement adapté, elle n'est pas handicapée. Et elle doit avoir des limitations d'activité ou des restrictions de participation à la vie en société. Donc j'imagine qu'au début du 19e siècle, j'aurais été considérée comme handicapée parce que je suis très myope, mais là, ça va. Donc vraiment, ça a vocation à évoluer dans le temps, cette définition. Donc à partir de ça, on a construit le questionnaire, on a même réussi. Donc on voulait pouvoir, et pour construire le questionnaire, il fallait qu'on ait bien en tête nos enjeux différents, donc qui étaient de pouvoir réaliser des études sur les personnes âgées ou dépendantes ou handicapées, pouvoir faire des comparaisons avec nos enquêtes précédentes, donc Handicap Santé et CARE, qui sont deux, si vous allez voir les questionnaires sur Internet, ça se ressemble, mais il y a quand même quelques différences. Il fallait aussi que notre questionnaire soit le plus accessible possible. Et puis, on voulait remédier aux difficultés rencontrées en 2008. Je vous ai glissé que la reconnaissance du handicap psychique, en fait, ça date de 2005. Avant, ce n'était pas reconnu comme un handicap. Et en 2008, les chercheurs nous ont indiqué que ça avait été un peu compliqué quand même de repérer les personnes qui avaient des troubles psy dans l'enquête. Donc, on a essayé de booster ce repérage. Tout ça en ayant un questionnaire qui soit acceptable, puisqu'on a comme mission de limiter la charge pour les enquêtés. Donc, on s'était donné une heure en moyenne. Pour la phase de construction du questionnaire, comme c'est des enquêtes qui ont lieu uniquement tous les 10 ans, on a mis en place un comité de concertation. Dans ce comité, il y avait des représentants des administrations qui veulent pouvoir voir si leurs politiques ont été utiles ou pas, qui se posent plein de questions. On a eu des représentants des statisticiens d'autres administrations. On a eu aussi beaucoup de chercheurs qui venaient pour nous dire que eux, les sujets, qui venaient pour nous donner les sujets qui les intéressaient. Et bien sûr, pardon, les financeurs, parce que l'ADRES n'est pas le seul financeur. On a un consortium de sept organismes financeurs. On a fait, pour construire ce questionnaire, on a fait beaucoup de réunions en 2019-2020. Sur à la fois des réunions plénières et puis des réunions thématiques, donc sur certains sujets précis comme les loisirs, le handicap psychique, enfin c'était très... voilà. Et à la fin, on a abouti à un questionnaire avec les thématiques finalement retenues, donc on a vraiment un cœur de questionnaire qui va nous permettre de définir les différentes dimensions du handicap et de la dépendance. Alors les premières puces, là c'est vraiment la partie déficience et restriction d'activité. Donc on regarde les déficiences, est-ce qu'il y a un morceau du corps qui ne fonctionne pas comme le reste de la population, les limitations fonctionnelles, est-ce que j'ai des problèmes pour voir, pour marcher, pour me concentrer, est-ce que j'ai des restrictions d'activité, est-ce que j'ai du mal à faire ma toilette toute seule, est-ce que j'ai du mal à préparer mes repas, même avec des aides techniques, est-ce que j'ai besoin d'aide humaine. Et ensuite on va décrire les conditions de vie, donc l'environnement, sans quoi on ne peut pas savoir si la personne est handicapée ou pas. Est-ce que la personne a des aides techniques, une aide humaine? Est-ce que quelle est leur situation par rapport à toutes les normes d'accessibilité physique ou numérique? On va leur poser des questions aussi sur leur accès à l'emploi, aux loisirs, à la scolarité. Aux loisirs, on a mis un module assez important sur les sports parce que 2024, c'est les JO, le sport des personnes handicapées, ça faisait vraiment partie des gros sujets pour le ministère des Sports. Et on a rajouté des questions sur des situations de victimation, parce que handicap et maltraitance, vieillissement et maltraitance, c'est vraiment des sujets très importants. Deuxième partie sur la préparation de l'enquête, on a essayé de s'adapter à la population enquêtée. Là, je vais vous faire des morceaux choisis aussi sur les trois enquêtes dont la collecte est terminée ou en cours. Donc la toute première enquête, l'enquête VQS, le but a été de diversifier nos modes de collecte. À présent, donc là, ce qu'on a choisi de faire, c'était de proposer trois modes de collecte séquentiels, c'est-à-dire que d'abord, les personnes ne pouvaient répondre que par Internet. Au moment de la relance, on leur envoyait un questionnaire papier, on leur disait « vous pouvez répondre par Internet ou par papier ». Et s'ils n'avaient toujours pas répondu, on leur envoyait un enquêteur téléphonique de l'INSEE qui essayait d'avoir la réponse par téléphone. Chaque fois qu'on fait une enquête dans la statistique publique, on se demande qu'est-ce qu'on fait comme mode de collecte. Et de plus en plus, on ne veut pas passer pour des vieux croutons, on propose Internet. Et là, on s'était demandé si on maintenait le papier ou pas, parce que le papier, ça tue des arbres, ça coûte très cher et c'est long. Mais on s'est dit que c'était important de maintenir la collecte papier pour les seniors. Parce que, par exemple, pour l'enquête CARE, alors on avait proposé en même temps Internet ou papier, et puis après, dans un deuxième temps, on avait proposé de répondre par téléphone. Il n'y avait que 2% des personnes qui avaient répondu par Internet à l'époque, c'était en 2014. Après, la population évolue vite. Avant de vous montrer le graphique, une personne, en fait on interrogeait, on tirait au sort une personne dans un ménage, on lui demandait de répondre pour l'ensemble de son ménage. Et là, une personne, et cette personne pouvait donc répondre vraiment pour chaque personne du ménage, ou chacun pouvait répondre pour soi. Ceci étant dit, donc vous voyez, on a bien fait de laisser la réponse papier parce que ça a permis à plus de 50% de nos 75 ans ou plus de répondre par papier. On a quand même 30% qui a répondu par Internet, donc soit eux, soit les enfants, soit les cohabitants. Ensuite, pour l'enquête ménage et l'enquête en établissement, à nouveau, on s'est demandé est-ce qu'on fait une enquête par Internet, parce que c'est bien pour les personnes qui sont actives, qui ne sont jamais chez elles. C'est peut-être plus facile pour elles de répondre. Mais on a décidé de maintenir la collecte en face à face, donc avec un enquêteur de l'INSEE qui va au domicile des personnes et qui remplit le questionnaire avec la personne. D'abord parce que le questionnaire, il est lent et complexe. Je ne sais plus si on l'a déjà mis sur Internet, mais si, enfin, c'est du même ordre que Handicap Santé, et c'est vraiment complexe. Mais aussi, on a pensé aux personnes âgées, à nouveau, qui sont plus à l'aise peut-être avec un enquêteur qu'avec l'outil informatique. Par contre, on a laissé la possibilité de réaliser l'enquête avec un proxy. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un proxy. C'est une personne, je suis désolée, j'ai laissé le terme technique, j'aurais pas dû. C'est une personne qui connaît, une tierce personne qui connaît bien la personne enquêtée et qui va pouvoir répondre pour elle ou qui va pouvoir l'aider à répondre. Donc typiquement, un enfant ou un adulte handicapé, ça peut être ses parents qui sont là et qui, quand les questions sont assez faciles, laissent la personne répondre. Et quand c'est trop compliqué, quand elle est trop fatiguée, prennent le relais. C'est une opportunité qui a été saisie par 38% des personnes de 75 ans ou plus, contre 25% des personnes de moins de 75 ans. On a aussi laissé la possibilité de réaliser l'enquête en deux fois, parce que l'enquête est longue, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de santé, parce qu'à chaque fois, on va dire « Ah oui, ah, il vous arrive ça, ah bon, d'accord, mais alors qui vous aide ?» Et ça rallonge d'autant le questionnaire. Donc pour eux, on pouvait faire l'enquête en deux fois. Et enfin, pour les questions avec des termes très techniques, on a prévu des reformulations. On n'a pas reformulé directement les questions elles-mêmes parce qu'on voulait pouvoir comparer le plus possible la comparabilité avec les enquêtes précédentes, mais on a essayé quand même de proposer des reformulations pour les enquêteurs parce que les enquêteurs ont un protocole très 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 précis. On leur demande de lire la question, de ne pas reformuler, ce qui fait qu'en comité de concertation, on peut s'écharper sur l'utilisation de tel ou tel terme. Mais l'enquête est tellement compliquée qu'on ne va pas se mentir, on savait que ça allait être reformulé, donc on s'est dit qu'on allait leur proposer une reformulation pour que ça soit le plus possible reformulé pareil pour tout le monde. En établissement, on a fait des adaptations encore plus, un peu plus spécifiques. On interroge des personnes qui habitent en établissement. C'est pareil, on n'a pas une base uniforme des personnes qui habitent en établissement à un moment donné. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré un échantillon d'établissement. On a fait un premier entretien. Donc cette fois-ci, notre prestataire, c'est Ipsos. Ils font un premier entretien avec le responsable de l'établissement. On fait un tirage au sort de 6 personnes. Et ensuite, on va aller interroger ces 6 personnes. Et au moment du tirage au sort, on va essayer d'identifier s'il y a besoin d'un proxy éventuel ou pas. Et s'il y a besoin d'un proxy, on essaie de faire en sorte que ce soit un membre de la famille pour déjà que la personne connaisse mieux l'enquêté et puis pour limiter la charge de travail pour les aides-soignants, par exemple, qui ont d'autres choses à faire. On a aussi décidé de présenter l'enquête avec une lettre avis simplifiée. Alors celle-là, je sais pas si vous connaissez le FALC, le facile à lire et à comprendre. C'est pour les personnes avec des déficiences intellectuelles et qui savent lire et qui comprennent plein de trucs, mais pas notre jargon, et c'est normal, nous non plus parfois. On leur a préparé, en fait c'est une façon d'écrire où la taille de la police, enfin c'est forcément du Arial, c'est pas de petites pattes là, tout ça, nos polices Times New Roman, c'est pas la peine, c'est trop compliqué à lire, donc c'est du Arial. C'est écrit en plus gros, c'est écrit au moins en taille 14, et puis c'est des phrases, une idée, une ligne, on change d'idée, on change de ligne, et puis on met aussi beaucoup de pictogrammes. Donc c'est vraiment, si vous voyez la lettre, vous allez vous dire que c'est vraiment pas pour vous, c'est clair. Mais par contre, ça donne vraiment l'information essentielle et voilà, elle est beaucoup plus accessible. Parce que quand on tire au sort une personne, on lui envoie toujours une lettre avis, donc pour lui dire qu'elle a de la chance, elle a été tirée au sort pour répondre à une enquête. Donc il y a toute la partie lettre classique qui est déjà assez longue. Et après, on a toute une partie du respect du RGPD qui lui dit qu'est-ce qu'on va faire de ces données, comment on va les protéger, etc. Et alors ça, c'est un pavé où on doit écrire énormément de choses en un minimum de place. Donc en général, c'est police 9 et c'est pas lisible et parfois, c'est même pas compréhensible. Enfin, c'est difficilement compréhensible, y compris pour des personnes qui ont fait des études, je pense. Donc là, vraiment, on leur a fait une lettre simplifiée. Et on l'avait pensé pour les personnes âgées, mais en fait, lors des tests de l'enquête en établissement, les enquêteurs nous ont dit « Eh, mais c'est trop bien pour les personnes âgées aussi, parce que c'est écrit plus gros, il y a l'information principale, et voilà. » Donc c'est bien de penser pas par âge, mais vraiment toujours ensemble de la population. Ça aide tout le monde. Et puis on a adapté le protocole. Donc je vous disais, notre questionnaire, il est long. Et donc il y a une partie des personnes dont on nous a dit bah oui elle peut répondre à une partie du questionnaire, mais alors 2 heures de questionnaire c'est trop long pour eux, elles peuvent se concentrer un quart d'heure. Du coup ce qu'on fait c'est que pour elles, on fait la première partie de l'enquête avec le proxy, donc c'est les parties les plus techniques, on va poser des questions sur les déficiences, sur les restrictions d'activité, sur la reconnaissance du handicap ou de la perte d'autonomie. Et puis quand ça devient plus concret pour elles, sur les conditions de vie, donc l'emploi, les activités dans l'établissement, les loisirs, on fait venir la personne et elle va pouvoir répondre elle-même. Voilà, j'en dis pas plus sur... il y a toute une partie de collecte qui est en cours. Je vous disais, on va chercher à apparier le dispositif. Alors pourquoi ? Parce qu'on doit limiter la charge de collecte des enquêtés. Notre questionnaire est déjà hyper long, mais on est tous... toujours hyper frustré parce que malgré tout, on trouve qu'on n'a pas assez d'informations. Mais de toute façon, on a toujours une course à l'information, on en veut toujours plus. Mais pas que. Parfois, ça permet aussi de limiter les effets les biais dus aux effets de mémoire. Parce que si je vous demande depuis quand vous percevez les APL, c'est peut-être encore un peu frais dans vos têtes. Mais si je vous pose la question dans 5 ans, ça va être compliqué. Alors que si je peux aller vous chercher dans les bases... j'aurai l'info, j'ai pas besoin de vous demander. Et puis donc ça va aussi nous permettre d'obtenir des informations précises qu'on n'a quand même pas osé demander. On va faire plein d'appariements, je vais pas vous parler de tous. Et vous voyez, en fonction des enquêtes, on va faire des appariements ou pas, parce que on pense qu'on va pouvoir retrouver plus ou moins de demandes. Les gros appariements qu'on va faire, c'est les appariements pour avoir, avec les données sociales et fiscales, pour avoir des informations sur les revenus, les prestations. On va aussi faire un suivi de mortalité pour voir l'espérance de vie différentielle des personnes handicapées, âgées, dépendantes du reste de la population. On va aller se brancher sur le système national de données de santé pour avoir la consommation de soins. Et puis, par exemple, on va aller se brancher sur la déclaration sociale nominative pour avoir des informations plus précises sur l'emploi, notamment l'emploi des personnes handicapées. Et dernier point, la mise à disposition des données. La statistique publique a pour politique de toujours, quand elle produit des données, faire la première publication, parce que comme ça, ça nous donne la première publication de cadrage. Puis en tant que chargé d'études, on est quand même content de faire la première publication, d'avoir, parce qu'on a vu tout le processus. Donc ça, on les publie pour le côté DRESS, soit dans notre collection études et résultats, soit dans les collections, les dossiers de l'adresse. Donc là, les deux visuels, c'est les deux publications issues de l'enquête vie quotidienne et santé. Donc, on essaie le jour même de vous mettre à dispo les codes GitLab, les codes sous GitLab. Et puis, on met aussi le plus possible des indicateurs détaillés parce qu'on est très content de ces publications, mais elles font que 8 pages. Donc, on ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé dans l'enquête. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites à partir de cette enquête. Et donc, on met à disposition des indicateurs détaillés du grand public, donc toujours nos dates adresses. Par exemple, pour l'enquête vie quotidienne et santé, le même jour qu'on a mis à disposition ces deux études et résultats, on a mis un ensemble de tableaux Excel où on présente toutes les questions qui ont été posées par sexe et âge, par département, par région. Et donc, quelqu'un qui fait pas trop de quanti peut aller chercher ces indicateurs. Donc, elle va pouvoir aller voir le nombre de personnes qui a beaucoup de difficultés pour voir dans un département, par exemple, sans que nous, on ait besoin de le mettre dans la publication. Et puis, bien sûr, on met à disposition les bases individuelles. Donc là, celles-là, elles ont été déposées sur Quetelet Projet d'eau, anonymisées, bien sûr. Voilà. Et dans un deuxième temps, donc par exemple, pour l'enquête autonomie en ménage, on espère pouvoir faire la première publication au premier semestre prochain, enfin 2024. Et puis mettre après à disposition les données des chercheurs et des étudiants. Parce que, je vous disais, c'est des enquêtes qui nous demandent beaucoup de temps de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Si on est les seuls à l'utiliser, on a perdu. Enfin, n'hésitez pas à utiliser ces données. Nous, chaque fois qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui veut utiliser les données, on est heureux. On sait qu'on n'a pas travaillé pour rien et on sait que ça va donner des choses hyper intéressantes. Où est-ce que vous pouvez accéder aux données ? Donc, il y a bien sûr les données date-adresse, mais il y a aussi Quetelet Projet d'eau. Et puis, le CASD, donc le Centre d'accès sécurisé aux données, pour les données les plus sensibles, dont les données de santé. Donc, autonomie ménage, très probablement, va être mis à disposition au CASD principalement, parce que 80% de nos données, c'est des données de santé. Quelles données en met ? On va mettre les bases individuelles. Donc, vraiment, il y aura une ligne par personne qui a répondu. Et on va mettre aussi de la documentation associée aux bases, bien entendu, pour vous permettre de savoir qu'est-ce que ça veut dire EdTech tiré du bas 08, parce que ce n'est pas toujours très parlant, et puis dans quel cas on peut l'utiliser. Et ça va vous dire aussi comment on a fait, ça va vous dire assez rapidement, mais comment on a fait nos travaux de redressement de nos réponses, pour que vous ayez une idée de comment vous pouvez utiliser les données. Et bien sûr, on met à disposition les questionnaires. Et voilà, j'en ai fini, je vous remercie.